On voit quasi systématiquement les investissements en agriculture comme étant des gestes strictement économiques. Rarement on les planifie pour améliorer le bilan de santé des Québécois. On répète que bien manger, c'est la santé. Mais plusieurs actions doivent être coordonnées pour inciter à bien manger et pour que les bons aliments soient disponibles et abordables. C'est donc sur cette piste des gestes que l'on pourrait souhaiter de la part de l'État que j'ai poursuivi ma discussion avec le cardiologue Martin Junot. Dans ce que pourraient ou devraient peut-être faire les autorités, les gouvernements, la stimulation de la production locale, oui. Ça, c'est quelque chose qui pourrait aider.
Oui, puis c'est pour ça que la question des serres m'a toujours intéressé. Et je ne connais pas les politiques du gouvernement par rapport aux serres. Mais j'espère que les serres ont les mêmes tarifs d'électricité que les entreprises, par exemple, d'aluminium. Puis je trouve que s'ils ne l'ont pas, ils devraient l'avoir. Puis ça devrait même être des tarifs encore meilleurs que ça, parce que ça va produire à moyen terme des effets très bénéfiques sur le système de santé avec des économies au bout. Alors, un des tarifs d'électricité beaucoup moins élevé que d'autres industries, et faciliter, subventionner ces entreprises-là pour qu'on multiplie les serres au Québec pour avoir une production locale.
Justement, le fait que ce soit local, donc on peut penser qu'on se retrouverait avec des fruits et légumes, par exemple avec des tomates plus fraîches sur le marché. Et ça, la fraîcheur, ça joue sur la qualité, ça joue sur l'impact qu'on a chez les humains.
Pas tellement. Tu sais, si vous mangez une tomate qui est défraîchie, je pense, sur le plan santé, ça n'a pas beaucoup d'impact, sauf que ça a beaucoup d'impact sur le comportement du consommateur. Si la tomate goûte rien et qu'elle est défraîchie, c'est pas intéressant. Moi, je donne toujours l'exemple des dépanneurs. Les gens de Hochelaga-Maisonneuve, par exemple, qui n'ont pas accès à des... Les gens de quartiers défavorisés qui n'ont pas accès à des marchés d'alimentation, d'aliments frais, puis qui vont aux dépanneurs, c'est pas là que vous allez trouver des fruits et légumes intéressants. La pomme, elle va être vieillie, sans saveur, et c'est pas comme ça que vous allez intéresser le consommateur. Alors, une tomate fraîche qui goûte bon parce qu'elle a été cultivée comme il faut, puis que c'est pas livré 2 mois plus tard, là, ou en tout cas une semaine plus tard ou 2 semaines plus tard, je pense que ça peut faire une grosse différence sur les comportements des consommateurs qui vont être intéressés à en manger plus.
Justement, à ce moment-là, on stimule davantage les gens à mieux s'alimenter parce qu'on saura que les aliments qui nous sont offerts à ce moment-là sont plus frais, plus goûteux, etc. En ce sens-là, la production locale devient très importante.
C'est très important pour la qualité des aliments, le goût, mais moi, je suis aussi, comme beaucoup de monde, sensible à l'environnement. C'est sûr que c'est pas tellement intéressant de penser que votre aliment a voyagé 1000 km dans des camions qui polluent avec le diesel. Alors, toute l'empreinte écologique des aliments importés, je trouve qu'on devrait considérer ça aussi.
Lorsque les gens disent « Ah, la santé, c'est par le bio », peut-être, mais l'important, c'est le végétal.
Oui, c'est vrai. Bon, il y a une étude récente qui tendait à montrer peut-être une amélioration de la santé avec des aliments bio. Mais moi, je dis toujours aux gens, il ne faut pas se priver de manger des fruits et légumes parce que, soi-disant, il y a trop de pesticides ou d'insecticides. Tous les experts vous diront, puis j'en ai parlé à plusieurs, des experts dans ce domaine-là qui vont vous dire que le risque associé à la faible quantité de résidus de pesticides par rapport aux bénéfices pour la santé, c'est incomparable. Alors oui, votre pomme, ça se peut qu'il y ait un peu de résidus, mais de pesticides, mais les bénéfices de la pomme sont tellement importants que ça compense largement.
En terminant, Dr. Junot, j'aimerais vous amener sur une question parallèle. Si on veut, vous êtes très lié à l'Observatoire de la prévention. Même, je pense que vous en êtes l'initiateur.
Oui, c'était mon idée. Je suis content du développement. Je suis aidé par des spécialistes, des biochimistes et d'autres PhD, dont Denis Gingras, Dominique Boivin. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se réunit toutes les semaines pour décider quels vont être les sujets importants pour la semaine. En général, on en prépare un ou deux. Alors, ça peut aller des légumes, une nouvelle étude sur les légumes, ça peut être sur le diabète de type 2, ça peut être sur le cannabis, on en a fait 3. Alors, tous les sujets qui touchent la prévention sont abordés dans un langage, je dirais, qui est accessible au grand public, mais il faut quand même se concentrer. C'est pas des petits textes de 10 lignes, c'est 2 pages. et on met tous les hyperliens. Alors, je dirais que c'est pour un public informé. Le but, c'est de diffuser l'information dans tous les domaines de la prévention, validée par des experts. Et l'idée, c'est, oui, éduquer le public, mais aussi les journalistes, les décideurs. Moi, j'aime bien quand un journaliste a lu un article sur l'Observatoire et nous demande des précisions. On a un bon fond, un bon point de départ.
Justement, vous avez, et c'est tout récent, là, c'est daté du 6 novembre, un texte sous votre plume, d'ailleurs, qui dit « Rémission du diabète de type 2, de nouveaux résultats prometteurs ». Le diabète de type 2, est-ce qu'on n'a pas déjà dit, est-ce qu'on ne croit pas encore, en général, que c'est tout à fait incurable?
Oui, puis d'ailleurs, il y a environ un an et demi, j'avais tweeté sur mon compte Twitter. En fait, j'avais parlé à Normand Mousseau, le fameux physicien, l'expert en environnement, qui a écrit un livre pour dire comment il avait guéri son diabète. Et j'avais été assez impressionné par son livre. Je lui avais parlé et j'avais tweeté là-dessus en recommandant la lecture de son livre. Et j'ai des médecins qui, bien connus qui m'ont immédiatement retweeté. « Bien, voyons donc, Dr Junot, on ne guérit jamais du diabète de type 2. C'est comme l'arthrose. L'arthrose, ça ne se guérit pas. » Dans le cas de l'arthrose, j'avoue, c'est probablement irréversible. Mais dans le cas du diabète de type 2, on a maintenant pas mal d'études qui démontre qu'on peut, peut-être qu'on n'utilise pas le terme guérison, mais rémission, au moins, on pourrait parler de rémission complète. Et il y a même des critères maintenant par les associations professionnelles pour dire quels sont les critères qui indiquent qu'il y a une rémission du diabète partielle ou complète, mais disons complète. Alors, on les a maintenant, ces critères-là. Et on a, par exemple, une étude britannique du Dr Taylor et son équipe qui a démontré un haut taux de rémission complète de diabète simplement par l'alimentation. Je dois dire que ce courant-là, qui est ce qu'on appelle la rémission du diabète, est venu de la chirurgie bariatrique. Vous savez, la chirurgie où on coupe les trois quarts de l'estomac, là, puis évidemment, ça produit des baisses extraordinaires du poids dans les semaines qui suivent. Et les chirurgiens qui ont fait ça se sont vite aperçus qu'il y avait des diabètes qui disparaissaient littéralement. Ce qui a fait dire à des spécialistes du diabète, la chirurgie bariatrique peut guérir le diabète. Là, ils ont parlé de guérison ou de rémission complète. Alors, il y a des médecins qui se sont dit, ben, c'est pas de la magie, là. C'est parce qu'il y a eu moins de calories ingérées, donc pourquoi on tente pas de le faire médicalement, sans chirurgie? Et c'est l'idée de Taylor, puis maintenant, il y en a plusieurs autres qui l'ont fait. Ce qui fait qu'un peu partout dans le monde maintenant, il y a des cliniques qui se spécialisent dans le traitement intensif du diabète de type 2 pour produire une rémission. Et c'est pour ça que nous, on en commence une en décembre, là. Une clinique comme ça.
Argument de plus en faveur des végétaux, d'une alimentation essentiellement basée sur les végétaux. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on devient végétarien, là.
Non, en fait, si vous parlez à la plupart des experts, que ce soit Harvard ou Yale ou tous ces endroits-là où il y a des grands spécialistes en nutrition, ils vont vous dire on n'a pas besoin de devenir végétarien ou végétalien pour être en très bonne santé, mais c'est clair qu'il faut que notre alimentation soit surtout basée sur les plantes, sur les végétaux, et considérer les viandes un peu comme des condiments. Par exemple, si vous regardez dans tous les endroits du monde où on vit très vieux et en très bonne santé, les vieux d'Okinawa, maintenant, évidemment, ça c'est en train de se contaminer par la diète occidentale, mais les vieux traditionnalistes, là, ils ont des espérances de vie vraiment impressionnantes, 88, 89 ans, en bonne santé. Et certains endroits au Costa Rica, en Sardaigne, alors on appelle ça les « blue zones », des endroits où les gens vivent très vieux et en santé. Et c'est quoi les caractéristiques de leur alimentation, ces gens-là? C'est vraiment une alimentation très axée sur les fruits et légumes, les grains entiers, les légumineuses. Alors la source préférée de ces gens-là pour les protéines, c'est les légumineuses et les noix, mais surtout les légumineuses. Ça, c'est une constante partout dans le monde. Alors moi, je dis à mes patients, pas besoin d'être riche pour manger comme les gens d'Okinawa ou de ces endroits-là. Fruits, légumes, des légumineuses, il y en a des quantités incroyables, ça coûte très peu cher. Le Canada, d'ailleurs, est un gros producteur de légumineuses. Et puis, vous utilisez la viande un peu comme un condiment. Par exemple, vous faites un couscous, vous coupez des petits morceaux de viande, vous les mettez dessus. C'est ce qu'ils font dans ces pays-là. La viande n'est pas comme le gros bloc dans l'assiette avec des patates à côté là, pour faire de la décoration.
Des frites.
C'est ça. Alors, c'est plutôt le contraire. C'est des fruits, ben, c'est-à-dire plein de légumes, des grains entiers, puis un petit peu de viande pour agrémenter. Mais c'est pas la base comme source de protéines.
Docteur Junot, on pourrait, je pense, en parler encore longtemps et on aura probablement l'occasion d'en reparler un jour, à un moment donné. Mais là-dessus, ben, merci beaucoup et puis bonne chance pour tout ce sur quoi vous travaillez, entre autres l'Observatoire de la prévention. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ici Lionel Levac. Le lien entre alimentation et santé est direct. Au moment où le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne, affirme qu'il se prépare à mettre en œuvre la politique bioalimentaire du Québec, il est permis d'espérer qu'un soutien bonifié sera accordé à diverses mesures qui permettront d'offrir aux consommateurs davantage de choix santé dans l'offre alimentaire. C'est devenu un cliché que de dire que l'argent mis en prévention vaut bien davantage que celui qui va au curatif. Mais on peut penser que cela est plus vrai que jamais. Au revoir.